France Inter, 13h30, bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Yves.
Le vendredi, dans la marche de l'histoire, vous avez un témoin.
Et ce témoin a des mérites héroïques. La Dordogne a envahi son jardin, voire sa maison. Et ce matin, il a chaussé ses bottes et il est venu jusqu'à nous.
Dans le siècle, dans le monde, sorti de soi ou des murs qui vous entourent, retrouvez les autres et la marche du monde.
Le témoin ce jour, Laurent Wirth, alors venu des bords de la Dordogne, entre Alsace et Cantal. La Dordogne passe aussi dans le Cantal.
Nous allons bien, ton père et moi. Nous n'avons pas été envoyés au camp de Schirmeck, comme l'ont été les parents d'un cousin mulhousien de ton ami Henri, qui a filé en Suisse pour se soustraire à l'incorporation. L'habileté de ton père nous a mis à l'abri de la menace qui pèse sur les familles, de ceux que les Allemands considèrent comme des déserteurs. Le village, comme toute l'Alsace, vit dans l'ombre de la terreur que font peser les camps de Schirmeck et de Struthof.
En 1942, le Gauleiter de Strasbourg astreint les jeunes Alsaciens à entrer dans la Wehrmacht. Pierre Wirth a pu se soustraire à cette incorporation. Il est élève à l'école normale supérieure de Saint-Cloud. Mais ses parents restaient au village. On entendait une lettre qu'écrivait sa mère. Aurait pu être considéré comme protégeant un déserteur et envoyé donc au camp de Schirmeck. Que sait-on de ce côté des Vosges, des dilemmes que connurent les Alsaciens et les Mosellans en 70, en 14, en 40? On pourrait penser que la famille Gineste, deuxième famille dont il va être question, dans sa maison bourgeoise d'Aurillac, se trouve, elle, dans une situation nécessairement plus confortable. Mais l'histoire a aussi imposé aux habitants du Cantal de faire des choix. C'est dans le chef-lieu de ce département qu'en décembre 1946 se célébrera un mariage que personne n'aurait pu prévoir. Le docteur Gineste, solide bourgeois et néanmoins résistant, mène sa fille à l'autel. Elle va épouser Pierre Wirth. Les rites de l'Église catholique pourraient rapprocher les deux familles, Gineste et Wirth. Et pour le reste, que de différence. Les uns et les autres ne parlent pas la même langue. Ils ne sont pas sur la même trajectoire sociale. Ils ont connu de la même histoire des versants très différents. Et pourtant, la rencontre improbable a eu lieu, dont Laurent Wirth est la résultante, enfant d'Alsaciens et de Cantaliens, et excellent historien biface.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Laurent Wirth, bonjour.
Bonjour.
Alors vous publiez aux éditions des Monédières, à larmes égales, où vous racontez cette histoire complexe. Excellent historien, enfin, vous avez été doyen de l'inspection générale d'histoire-géographie, c'est un joli titre, enfin, ça veut dire que vous étiez le chef des inspecteurs généraux, que vous revenez une part de responsabilité dans la confection des programmes. Alors on se souvient peut-être des polémiques qui ont eu lieu au moment où vous teniez ce poste. On vous disait que vous n'aimiez pas la France.
Oui, ça a été une période assez difficile, mais que j'assume totalement. Et d'ailleurs, ce livre que j'ai écrit, de même que je pense qu'il faut prendre ses distances avec le roman national, j'ai voulu prendre mes distances avec le roman familial et j'ai voulu faire œuvre d'historien. Et donc, ce récit, puisque ça n'est pas un roman, est basé sur des recherches que j'ai menées en historien pour justement mettre en distance et évacuer le côté uniquement mémoriel et affectif qu'aurait pu avoir le récit donc, que je fais dans ce livre.
Vos adversaires politiques mettaient en avant votre nom. Vous savez ce que disait Céline, on va consacrer l'émission de lundi au pamphlet antisémite de Céline. L'Orient, vous faisiez dans les programmes une place à l'Orient. C'est déjà la loge maçonnique, la loge c'est déjà le juif. Le juif c'est déjà le nègre. Et puis votre nom a pour votre père ou votre frère et vous-même, enfant, provoqué des difficultés. Vous vous souvenez du moment où votre frère aîné rentre en 1953?
Oui, alors ça c'était...
Une cour de récréation.
Voilà, j'étais vraiment... tout enfant, puisque j'étais à l'école maternelle encore, nous habitions assez près de l'école, et mon frère, lui, qui était à l'école primaire, donc mon grand frère, est venu me chercher en pleurant. Moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et quand il est arrivé à la maison, il a dit à notre père, qui lui-même a été résistant et ensuite engagé dans la première division française libre, dans la cour de récréation, on m'a traité de sale boche. Il se trouve que c'était en 1953, au moment du procès d'Oradour-sur-Glane, et que des Alsaciens, 13 Alsaciens étaient sur le banc, 14 Alsaciens, dont 13, malgré nous, étaient sur le banc des accusés, et qu'ils ont finalement,
ils ont été,
finalement amnistiés, et ça a provoqué toute une polémique entre Alsace et Limousin.
Alors, soit la famille Wirth, on va commencer par la première famille. Votre grand-père s'appelle Joseph Wirth, il vit au sud de l'Alsace.
Oui, dans le Sundgau.
Dans un village qui s'appelle
Sirens.
Je vérifie votre accent alsacien. Il est né en 1893. Peut-être ressemble-t-il, dans la manière qu'il a de prononcer le français, à ce vieux villageois qui raconte son enfance de 1900. Votre grand-père est né, lui, en 1893. Dans les années 1960, au micro de Knapp et Bringuier.
Vous avez été complètement élevé sous le Reich allemand.
Oui, oui.
Vous pouvez me raconter un peu ce qu'était votre enfance?
Oui, à l'anniversaire du Kaiser, on a toujours fait... c'est une fête de l'école. On a reçu un cadeau et on a chanté comme on aime le bon Kaiser. Il est à Berlin. Je voudrais aller chez lui pour féliciter parce qu'il a son anniversaire.
Vous pouvez me le chanter, ça, encore?
Oui.
Allez-y.
Der Kaiser ist ein lieber Mann. Wohnt in Berlin. Und wäre es nicht so weit von hier, so würde ich morgen schon hin. Nous Alsaciens, on a autrement chanté. Du bist verrückt, mein Kind. Du musst nach Berlin. Wo die Verrückten sind, dort musst du hin.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ils se foutent à Berlin.
Ils sont fous?
Ils se foutent à Berlin. Et si tu veux être fou, il faut aller à Berlin.
L'ironie alsacienne, vous compreniez ce que disait votre grand-père?
Oui, mais mon grand-père parlait peut-être encore moins bien le français que cet homme. Il avait tout à fait cet accent, mais il était obligé de s'exprimer souvent dans un français très approximatif. Il n'a jamais appris le français à l'école, c'était même complètement prohibé. Et donc à la maison, avec mon père, il parlait l'alsacien, pas l'allemand, l'alsacien. Et nous, on avait du mal à comprendre parce que je n'ai jamais maîtrisé moi-même l'alsacien. Donc on avait l'impression d'être un peu sur une autre planète.
Alors, les enfants aiment bien les greniers, surtout les futurs historiens, et dans le grenier, il y a un casque à pointe.
Voilà, oui, ça c'était à l'été 1955, en jouant par un jour pluvieux dans le grenier de notre grand-père Joseph, nous avons découvert un casque à pointe, et on était, nous les enfants, assez éberlués, on se demandait ce que c'était que ce drôle d'objet. Et on est allé voir notre père, qui était professeur d'histoire et qui savait tout. Et notre père a été contraint de nous dire que son père, donc notre grand-père, qu'on appelait grand-père, s'était battu donc dans l'armée allemande.
Mais attendez, il s'est battu, dites-vous, parce que vous avez restitué le parcours à l'aide de lectures et d'archives, comme tireur d'élite et dans un régiment dit de fer.
Oui.
Pas n'importe quel régiment.
Oui, oui. Alors, en fait, si vous voulez, dans la légende familiale, on se berçait de l'idée qu'il avait été forcé de le faire et qu'il s'était engagé, donc enfin qu'il avait été mobilisé contre son gré. Et en fait, donc les études que j'ai faites montrent qu'il a fait la guerre et qu'il a vraiment fait la guerre. Ceci étant dit, il faut savoir que sur les 380 000 Alsaciens et Mosellans qui ont servi dans l'armée du Kaiser en 14-18, seuls 18 000 d'entre eux sont passés de l'autre côté pour s'engager dans l'armée française, et il y a eu à peu près 1000 à 2000 désertions. La plupart des Alsaciens étaient envoyés sur le front russe. En ce qui concerne mon grand-père, lui, il n'a pas eu le choix. Il a été mobilisé en 1913, il était dans le pays de Bade, et donc quand la guerre a éclaté, il était déjà sous l'uniforme
en Allemagne. Donc le Nord en 14, Verdun en 16, la Somme ensuite. Ça, c'est la famille Wirth, le grand-père. Grand-père, Joseph. Soit maintenant la famille Gineste, celle de votre mère. Et alors là, un autre grenier, celui de la maison de vacances de Chaussnac, qui surplombe la Dordogne, ouais. Votre chère Dordogne. Et dans le grenier, les annales de la société de chirurgie. Voilà. 1914 à 1923.
Oui, assez effrayante d'ailleurs, parce que il y avait des gueules cassées, des images donc de gueules cassées qu'on réparait. Et je pense d'ailleurs à ma petite fille qui vient de voir le film Au revoir là-haut et qui est traumatisée par les gueules cassées. Moi, enfant, si vous voulez, quand j'ai découvert ces livres avec toutes ces images assez effrayantes, c'est quelque chose qui m'a marqué et j'ai compris donc que mon grand-père à ce moment-là avait été chirurgien de guerre comme l'a été Georges Duhamel.
Georges Duhamel, dont on va entendre le témoignage. Georges Duhamel est un petit peu plus vieux que votre grand-père Albert Gineste, mais il a fait l'expérience et de l'ambulance et de l'opération à chaud sur le front.
Quand arrivait le matin, quand j'avais passé toute la nuit avec une lampe à acétylène, à opérer, à faire des urgences, à lier des vaisseaux, à amputer des plaies, quand je voyais la poubelle, les deux ou trois poubelles qu'il y avait à la porte de la salle d'opération, comme des bouquets de bras et de jambes, on avait mis là-dedans tout ce qu'on avait dû faire tomber. Eh bien, je m'en allais manger un morceau, oui, manger, parce qu'il fallait quand même manger, il fallait quand même se restaurer, manger un morceau et faire mon choix dans les blessés qui attendaient. Ils attendaient dans une espèce de grande baraque où on les avait placés là au ras du sol, et quand je passais, ils me saisissaient par les jambes, par les leggings, et me suppliaient avec des larmes de m'occuper d'eux. Et je leur disais, je vais m'occuper de toi tout de suite, ou je vais m'occuper de vous tout de suite, un peu de patience. Mais en réalité, mon choix était dirigé par des choses très fortes. Je faisais passer d'abord ceux qu'on avait quelque chance de sauver. Et ceux qu'on ne pouvait pas sauver, ben mon Dieu, je m'excuse, mais je les laissais mourir. Il n'y avait pas à faire autrement. Et alors là, je retournais tout de suite, après avoir avalé un morceau, je retournais dans la salle d'opération et je recommençais.
Et ensuite, deux destins sociaux très différents. Alors, votre grand-père médecin achète une clinique à Perpignan, puis à Aurillac, toujours le cher Cantal. Il va y avoir quatre enfants, Jeannine, retenez ses prénoms, hein, et Jacques. Et puis, du côté alsacien, chez les Wirth, moins d'enfants, moins de biens.
Oui, c'était une famille paysanne dont le chef de famille, donc mon grand-père, complétait ses revenus en travaillant au chemin de fer. Donc d'abord au chemin de fer impériaux, puis au chemin de fer de l'Est après 1918.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Laurent Wirth qui raconte les destins différents et qui vont s'entrecroiser de ces deux familles dans « À l'armes égales » aux éditions des Monédières. 1939, les Alsaciens et les Mosellans, une grande partie d'entre eux au moins, une auditrice me le signale, parlait des Mosellans, Geneviève Fleury, c'est fait madame, sont évacués quand commence la guerre. Joseph Wirth reste parce que il travaille au chemin de fer, il faut surveiller les chemins de fer. Mais sa femme et Pierre Wirth, le jeune homme, vont où? À l'intérieur de
Alors,
la France.
Dans le sud-ouest, d'abord dans les Landes, et mon père ensuite dans une école normale, qui est l'école normale délocalisée à Aiguillon dans Lot-et-Garonne, puis Périgueux, et c'est là qu'il va préparer l'école normale de Saint-Cloud. Et qu'il
l'école,
va réussir
normale
le concours.
Supérieure, l'école normale supérieure, il va réussir le concours, mais pour intégrer l'école normale supérieure de Saint-Cloud, il faut avoir fait, en 1942, les chantiers de jeunesse, aussi repérés pour nous par Martin Pennet, l'enregistrement d'Henri Jossy. Il y en aura un autre plus tard de Charles Trenet, de la marche des jeunes.
A-t-il fait bon d'avoir notre âge? A-t-il fait bon d'avoir 20 ans? Et de marcher le cœur incontent vers le clocher de son village? Quelle est jolie notre rivière? Quelle est jolie notre maison? Quelle est jolie la France entière? Quelle est jolie en toute saison?
Oui, vraiment. Une fois qu'il a fini les chantiers de jeunesse, il veut intégrer l'école normale supérieure où il a été admis.
Oui, mais le secrétaire général de l'école, Henri Canac, lui dit « Vous êtes Alsacien, la prudence veut que vous ne veniez pas à l'école parce que les Allemands sont là, ils viennent régulièrement pour rafler et les Juifs et les déserteurs alsaciens, donc il faut vous cacher. »
Parce que le Gauleiter de Strasbourg, le fameux Wagner, astreint maintenant les jeunes à entrer dans la Wehrmacht. Et l'astreinte est si forte qu'elle pèse aussi sur les parents. Si les parents ne dénoncent pas les enfants déserteurs, ils risquent eux-mêmes d'être arrêtés. Ceci, vous publiez dans votre livre « À l'armes égales » ce très beau document, date du 31 octobre 1943. Madame Joseph Wirth, votre grand-mère, qui a choisi de revenir rejoindre son époux qui était resté en Alsace, réussit à faire passer une lettre unique.
Hein. Oui, parce que c'était trop risqué pour eux et risqué pour mon père. Et donc, elle réussit à faire passer une lettre grâce à un ouvrier de Belfort qui travaillait à l'usine électrique de Kemps et qui, revenant à Belfort tous les jours, a pu faire passer cette lettre à mon père qui l'a trouvée à l'école normale.
Mon Pierre, nous avons appris que tu avais été reçu dans cette école par un Strasbourgeois qui travaille au chemin de fer comme ton père. Nous allons bien, ton père et moi. Nous n'avons pas été envoyés au camp de Schirmeck, comme l'ont été les parents d'un cousin mulhousien de ton ami Henri, qui a filé en Suisse pour se soustraire à l'incorporation. L'habileté de ton père nous a mis à l'abri de la menace qui pèse sur les familles, de ceux que les Allemands considèrent comme des déserteurs. Il a écrit une lettre au directeur de l'administration civile à Strasbourg, dans laquelle il demande aux autorités allemandes, étant sans nouvelles de toi depuis l'armistice, de faire le nécessaire pour que tu sois retrouvé et rapatrié. Il a emporté ce courrier à Mulhouse, et grâce à la complicité d'un fonctionnaire alsacien, il a pu le faire tamponner du cachet à l'aigle avec la mention « copie conforme », original expédié à ce jour au service compétent. Il peut ainsi le présenter aux policiers et aux gendarmes allemands qui viennent l'interroger. Le village, comme toute l'Alsace, vit dans l'ombre de la terreur que font peser les camps de Schirmeck et de Struthof. Devant la mairie est placardée une affiche sur laquelle on peut lire « Un Allemand parle allemand ». Dire bonjour en français coûte 1 marque d'amende. Pardonne-moi de t'avoir imposé nos soucis et nos peurs.
C'est admire assuré que Pierre Wirth va faire le choix d'entrer dans la clandestinité progressivement.
Oui, parce qu'il a le sentiment que depuis 1940, finalement, il est protégé comme dans un cocon au sein de l'école normale, puis à Périgueux. Cette lettre va en fait le faire basculer dans la résistance. Il va décider de passer à l'action et c'est là donc qu'il part, grâce à un ami qui a une filière, qu'il part donc dans la Loire et qu'il va entrer dans un maquis de l'armée secrète dans la Loire, dans le département de la Loire, pas très loin de Roanne, dans une région qu'on appelle la Montagne du Matin.
Vous en parlez avec lui, Pierre Wirth, parce que Pierre Wirth a publié avant votre livre son propre livre,
oui,
Carrefour.
Il a publié un livre en 1955 chez Flammarion, Carrefour, à la suite du choc du procès d'Oradour et à la suite de ce que je vous ai raconté. Hein, j'ai vu mon père pleurer ce jour-là quand mon frère lui a dit qu'il s'est fait traiter de sale boche, et c'est ce qui a amené mon père à écrire son histoire et à retracer ces événements qui ont été terrible pour lui, parce que la plupart de ses amis de Sirens sont morts sur le front russe. Et lui, donc, a pu faire un choix que ses amis n'ont pas pu faire parce que leurs parents ont été déportés.
Et maintenant, que se passe-t-il dans la tranquille, apparemment tranquille, cité d'Aurillac, que le maréchal, en voisin, bienveillant, vient visiter souvent?
Toute la question, en fin de compte, et de respecter les ordres donnés, je ne me propose qu'une chose, c'est de pratiquer l'union entre toutes les conditions, entre tous les sentiments des personnes, et puis alors, et entre tous ceux qui veulent accomplir simplement leur devoir.
Monsieur le maire d'Aurillac.
Monsieur le maire d'Aurillac.
Monsieur le maréchal, nous sommes venus, mes collègues et moi, vous dire ce que nous eussions été si heureux de vous exprimer dans notre cher Cantal. Nous vous avons tant attendu.
Cher Cantal, où nous avons tant attendu la venue du maréchal. Dès le premier passage du maréchal, bien avant cette visite dont on a ici un écho, dès octobre 40, le docteur Albert Gineste, le directeur et propriétaire de la grande clinique, Eh bien, lui, il choisit de tourner le dos à Pétain.
Oui, il a un ami et voisin qui est un dentiste, qui s'appelle Henri Tricot, qui est le père de Bernard Tricot, le futur secrétaire général de l'Élysée à l'époque du général de Gaulle, qui est résolument rentré dans la résistance, sous l'influence d'ailleurs d'un autre personnage assez extraordinaire dont Joseph Kessel a conté les aventures, qui s'appelle Édouard Serre, qui était un gaulliste convaincu dès les années 38-39. Et avec un autre médecin, le docteur Garrigou, ils vont constituer le premier noyau de résistance à Aurillac. Et leur premier acte de résistance sera un jour avant Montoire, donc Montoire, la rencontre de Montoire n'a pas encore eu lieu, de tracer des croix de Lorraine sur les bâtiments dont les murs sont les plus clairs à Aurillac et de d'inscrire des graffitis donc gaullistes et anti-pétainistes.
Et c'est seulement en 43 que le préfet commence à se dire que ce bon docteur Gineste, ancien radical de surcroît, est inquiétant.
Oui. Alors, il a été effectivement surveillé par la police et surveillé par la police allemande aussi, jusqu'à Vichy. L'antenne de la police allemande à Vichy s'est intéressée à lui. Il a été protégé et sauvé grâce à quelqu'un qui était un personnage extraordinaire qui s'appelle Henri Weisbecker, d'origine lorraine, et qui était le commissaire de police d'Aurillac, qui a mis sous le coude une lettre de dénonciation que j'ai retrouvée, une lettre de dénonciation de mon grand-père, et qui lui a permis, qui l'a fait prévenir, et qui lui a permis donc d'échapper à l'arrestation au moment où la division d'Assereich, une colonne de la division d'Assereich, est passée à Aurillac.
On sait que les Ginestes ont 4 enfants, Jeannine, vous vous souvenez, chers auditeurs, de son prénom, et puis il y a un fils qui s'appelle Jacques, alors qui boude d'agir, que son père Albert Gineste, à qui son père donne des tâches de courrier clandestin, mais quand intervient le débarquement, et l'été 44, Jacques Gineste décide de quitter Aurillac, et il va vers la première division de la France libre qui rejoint depuis le sud la France grâce au débarquement de Provence. Et il se trouve que Pierre Wirth, lui aussi, prend la même direction.
Oui, le hasard veut que ces deux jeunes hommes, donc mon père, dès qu'il a appris le débarquement de Provence et la remontée donc de l'armée de l'Âtre le long de la vallée du Rhône, et Jacques ont eu la même idée. Mon père, dans son maquis de la Loire, a décidé donc de rejoindre Lyon pour s'engager au moment où l'armée de l'Âtre a pris Lyon. Et Jacques, lui, a quitté le maquis du Cantal qu'il avait rejoint après le 6 juin pour rejoindre donc cette armée de l'Âtre. Et tous les deux vont, dans Lyon, tomber sur des soldats qui leur paraissent très sympathiques, qui sont en fait des Tahitiens et des Néo-Calédoniens, et vont suivre ces hommes, chacun de son côté, et s'engager dans le même bataillon, qui est le bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique.
Après El Alamein et la campagne de Tunisie, la première DFL prend part au début de 1944 aux opérations sur le front italien. Le bataillon du Pacifique est de tous les assauts contre les lignes Gustave et Hitler. Tous ceux du bataillon, au passé déjà riches en fait d'armes, se souviendront du 16 août 1944, le jour du débarquement en France, à Cavalaire. Pour vivre ces instants décisifs, les soldats d'Océanie ont traversé 3 continents. La marche triomphale le long de la vallée du Rhône conduit le bataillon du Pacifique jusque dans les régions boisées de Beaufort en plein hiver.
On ne va pas raconter comme vous le faites, Laurent Wirth, par le menu dans votre livre, à l'armes égales, les combats de Pierre Wirth et de Jacques Gineste ensemble dans ce bataillon. Jacques Gineste d'ailleurs est blessé du côté de Belfort.
C'est Pierre qui sera blessé deux fois, mais particulièrement à Sermamagny. Il a une blessure assez grave et ensuite ils vont être envoyés pour réduire les poches de l'Atlantique. Mais à ce moment-là, il y a la contre-offensive des Ardennes et une offensive sur l'Alsace de diversion et donc il y a un nouveau combat.
c'est du côté de la poche atlantique de Royan que se produit la rencontre improbable. Parce qu'il y a un moment de repos là pour Noël 1944 et la famille Gineste, venue d'Aurillac, vient réconforter Jacques. Dans la famille Gineste, il y a
Janine.
Pierre Wirth est là, aux côtés de son camarade, et c'est la messe de minuit. Alors, je vous cite. Janine est assise à l'harmonium. Au moment du kyrie, Pierre et Janine échangent des regards furtifs. Pendant le gloria, les regards se font plus appuyés. Au credo, ils se sourient, et quand vient le sanctus, ils n'ont plus Dieu que l'un pour l'autre. Et l'Agnus Dei, je vous cite toujours, est un moment de communion parfaite. C'est tout à fait. Qui nous ont raconté ça ou c'est vous qui avez imaginé ça?
J'ai retrouvé une photo extraordinaire, qui est une photo donc de la chorale. Mon père chantait très bien, donc il était maître de chant de cette chorale pour la messe de minuit de Noël 44. Et on voit Pierre et Janine assez proches l'un de l'autre, et le curé qui a d'ailleurs écrit au dos de la lettre en souvenir de notre organiste de passage, le curé Roussieff. Et donc j'ai une preuve tangible, on m'avait raconté ça, mais là j'ai une preuve tangible avec cette photo de cette rencontre improbable entre les deux familles.
Le mariage n'aura lieu qu'en décembre 1946 à Aurillac, parce qu'il faut que la guerre se finisse, et ça n'a pas été une mince affaire. La famille alsacienne qui avait été contrainte de redevenir allemande, vient à Aurillac.
Oui, oui, oui.
C'est la seule rencontre entre les deux familles.
Ma mère, bien sûr, allait régulièrement en Alsace avec nous et mon père, mais les deux grands-pères ne se sont rencontrés que cette fois-là, et c'est une photo assez émouvante de voir les deux grands-pères côte à côte. Ma famille alsacienne avait peu de moyens, si vous voulez, donc ils se déplaçaient relativement peu, mais l'entrevue a été très chaleureuse et les deux anciens ennemis sont tombés dans les bras l'un de l'autre.
Et votre mère, quand elle était en Alsace, elle comprenait rien du tout à ce qui se passait?
Non, parce que les discussions autour de la table se faisaient en alsacien et mon père traduisait, bien sûr, ce qui se disait autour de la table, pour nous aussi, mais ça se faisait par prête interposée, si j'ose dire, et il y avait une certaine difficulté de communication qui a fait quand même que le mélange s'est fait. J'ai utilisé une image dans le livre qui est une image que je tire d'une expérience que j'ai faite lors d'une mission en Afrique au Burundi, où on voit les eaux du fleuve Rudzizi, qui sont des eaux boueuses qui se jettent dans le lac Tanganyika, et au départ donc les eaux ne se mélangent pas, mais elles finissent par se mélanger.
C'est curieux la formule que vous avez utilisée. Il y avait une difficulté de communication, ce qui a fait que le mélange s'est fait.
Non, il y avait une difficulté de communication qui n'a pas empêché le mélange de se faire. Voilà, il vaudrait mieux que je corrige.
Parce qu'il y avait aussi la distance sociale.
Tout à fait. Ma mère était une bourgeoise et la famille d'Alsace était une famille beaucoup plus simple. Mais, si vous voulez, je crois que le pont, ça a été mon père, parce que mon père était un grand intellectuel qui, dans cette famille bourgeoise, s'est fait respecter par justement sa dimension intellectuelle. Mes deux oncles étaient tous les deux médecins, l'un était chirurgien, l'autre était gynécologue. Ils avaient donc un statut social. À l'époque, c'était un statut social. Mon père était professeur, il était professeur d'école normale.
Votre père était un carrefour.
Voilà. Et mon père était le carrefour. Parce que justement, dans cette famille bourgeoise, ses qualités intellectuelles l'ont fait totalement reconnaître. Mais si vous voulez, nous étions un peu des Alsaciens en Auvergne et des Auvergnats en Alsace. Je peux pas dire que ça nous a posé un problème d'identité. Il est complètement résolu aujourd'hui, mais ça nous a quand même fait réfléchir sur nous-mêmes.
Merci à vous, Laurent Wirth, à l'Armes Égales, aux éditions des Monédières. C'est à Brive-la-Gaillarde que nous saluons. Cette émission était préparée par Frédéric Martin, Franck Olivard, Louise Arouin. La lecture, c'était Ilinka Negulesco, à la technique Julien Chabassu, la réalisation Audrey Ripouille.